Le fils Mauga. Première partie, chapitre 6. Il n'y avait pas de place pour tout le monde dans la grange. Et le flot des danseurs débordait jusque dans la cour, où les couples se trémoussaient en plein soleil. Tandis que le violon et la cornemuse jouaient un vieil air de bourré, les filles, rouges comme des œillets sous leurs coiffes blanches, tournaient lentement au bras des garçons. Un petit bout de chignon passait sous le bas-volet de la coiffe, et leur fichu, épinglé très bas sur le dos, laissait voir en s'échancrant les lignes de la nuque et du cou. Pour préserver leur robe du contact moite des mains des danseurs, elles avaient noué leur mouchoir autour de la taille. Les figuiers et les cormiers qui bordaient la muraille promenaient sur ces jeunes visages les mobiles découpures de leur ombre. L'une des plus infatigables danseuses était Thérèse Desroches. Elle ne prenait pas un moment de repos et se dédommageait de sa longue réclusion au logis de la rue Louis XIII en ne laissant ni un bal ni une contredanse. Souple, légère, rebondissante, elle ne semblait pas toucher le sol. Le plein air l'enivrait. Ses yeux et ses lèvres souriaient. Il y avait encore de la pétulance enfantine dans la grâce un peu sauvage avec laquelle elle sautait en mesure. Tout à son plaisir, elle ne refusait pas un danseur, donnant une part égale de bonne humeur et de cordialité à tous ceux qui venaient l'inviter. Elle ne paraissait fuir qu'un seul des convives, Étienne. Plusieurs fois, il avait cherché à la rejoindre, mais elle se dérobait, ou elle appelait près d'elle, comme une sauvegarde, l'inévitable Jouzé. Dépité par le peu de succès de ses tentatives, le jeune homme résolut de prendre sa part de plaisir sans s'inquiéter davantage de cette rancunière petite personne. Il aimait la danse, il avait de l'entrain et était bon danseur. Aussi, les filles du Breuil et de Saint-Saviol se montrèrent-elles pour lui moins cruelles que Mademoiselle Desroches. À son tour, il oublia son insuccès en se grisant de sauterie et de musique. Une seule fois, le hasard le ramena près de Thérèse. La soirée était déjà très avancée. Le jour s'était lassé d'éclairer les jeunes gens de la noce. Mais ceux-ci ne s'étaient point lassés de danser. Le cornemuseux faisait toujours sonner sa pibole, et les couples sautaient gaiement dans la cour où la lune s'était chargée de relayer le soleil. Mademoiselle Desroches s'était arrêtée pour reprendre haleine, et le dos appuyé contre l'un des jambages de la porte de la grange, elle s'éventait avec un bouquet de feuilles de figuier. « Je n'ai pas encore eu le plaisir de danser avec vous, mademoiselle, » dit brusquement Étienne en sortant de l'ombre de la grange. Elle tourna vers lui ses yeux noirs qui luisaient au clair de lune, et ses sourcils se rapprochèrent. « Vraiment, monsieur, » répondit-elle d'une voix brève, avec une indifférence affectée. « Les musiciens vont jouer un bal. Vous plaît-il que nous le dansions ensemble ?»« Merci, je suis engagé par M. Jouzé. »«
Toujours, alors ?»
fit ironiquement Étienne.
« Toujours, »
répéta-t-elle sur le même ton. « Monsieur Jouzé a de la chance. »«
Que voulez-vous, monsieur Mauga ? On ne peut pas tout avoir. »«
Je troquerais bien mon lot contre le sien. » La jeune fille secoua la tête avec un mouvement d'impatience et une moue dédaigneuse.
« L'échange ne lui plairait peut-être pas, » répliqua-t-elle.
« Et vous ne lui conseilleriez pas, sans doute, »
repartit le jeune homme, piqué au jeu. Elle le regarda bien en face avec ses yeux francs et limpides. « Moi ? Non, certainement, monsieur Moga. » Et elle s'éloigna. Cette fois, l'intention blessante était trop marquée pour qu'Étienne pût douter des sentiments de son interlocutrice. « Enfant désagréable et mal élevé, » murmura-t-il en dedans de lui, en quittant la place. Ce nouvel échec l'avait irrité, et le bal ne le tentait plus. Il se fit conduire à la chambre que Célestin lui avait réservée, et il se coucha. Il dormit fort mal. Son sommeil était à chaque instant troublé par les sons de la cornemuse, les cris et les chants des garçons qui menaient grand tapage en cherchant à découvrir la chambre des jeunes mariés auxquels ils apportaient la soupe blanche. Il se réveilla dès l'aube et, bien qu'il eût promis vaguement à Célestin de fêter le lendemain de noces, il résolut de regagner sur le champ Saint-Clémentin. Ayant chargé une servante de présenter ses excuses à ses hôtes, il descendit lestement le coteau du Breuil, traversa la Charente et gravit le versant opposé. Le soleil venait de se lever au ras des bruyères roses et les alouettes chantaient. Étienne, la tête un peu vide comme quelqu'un qui a mal dormi, cheminait d'un pas traînant et mélancolique. Malgré lui, il repensait aux rebuffades de Mademoiselle Desroches, et devant ses yeux demi-fermés, il revoyait cette singulière fille avec sa bouche d'enfant, son regard droit et hardi, son front volontaire et obstiné. C'était assurément la figure la plus originale et la plus séduisante qu'il eût encore rencontrée à Saint-Clémentin. Par quelle mauvaise chance était-ce justement celle-là qui professait une si étrange aversion pour la famille Moga. Que le docteur fût en froid avec M. Moga, il n'y avait là rien de bien étonnant dans une petite ville. Mais que sa fille, une enfant de 16 ans, épousât aussi passionnément la rancune paternelle, qu'elle la reportât si violemment sur un nouveau venu, étranger à toutes ces querelles de clocher, cela passait la permission. Ainsi absorbé dans ses songeries, il avait déjà traversé le village de Saint-Pierre et il redescendait vers la ville quand, au détour d'un chemin creux, il se trouva face à face avec son père. Monsieur Moga, en petite tenue du matin, coiffé d'un chapeau gris et chaussé de gros souliers de chasse, paraissait aussi éveillé et gaillard que son fils était somnolent et morose. « Oh oh ! » dit-il en lui prenant le bras. « Te voilà déjà de retour ? Si j'en juge par ta mine allongée, tu as passé une nuit blanche, mon garçon. » « Non, je me suis couché à 11 heures et je viens de me lever. » « Diantre ! Quelle sagesse ! Il n'y avait donc pas de jolie fille à cette noce ? Eh bien, puisque tu as dormi, je t'emmène. Je veux te montrer une acquisition que j'ai faite pendant ton absence. » Ils prirent à travers champs dans la direction du plateau qui domine Saint-Clémentin. « Oui, reprit M. Moga, j'ai acheté la Fénicardière. Il y avait longtemps que ce domaine me donnait dans l'œil, et comme le précédent possesseur était mal dans ses affaires, j'en ai profité pour avoir ses terres à de bonnes conditions. » Il s'était engagé dans une avenue de noyers, à l'extrémité de laquelle s'ouvrait le porche des bâtiments d'habitation. M. Moga, en vrai propriétaire, ne fit pas grâce d'un coin à son fils. Il le traîna à travers les vergers, les prairies et les sainfoins. « Vois-tu, dit-il à Étienne en lui montrant avec sa canne les 4 points cardinaux. « Il y a de tout ici, des prés, des blés, des châtaigneraies et même de la brande, grâce à notre déplorable système de métayage. Mais je veux changer tout cela. je renverrai les quatre métayers qui nous grugent et je les remplacerai par un fermier belge, actif, habile, qui fera valoir le domaine entier et ne laissera pas un pouce de terre en friche. En banque, chaque pièce de 100 sous doit rapporter un intérêt. De même en agriculture, il faut que chaque motte de terre soit féconde. « Oui, » reprit-il en abattant un chardon d'un coup de canne énergique, « tout cela prendra bientôt une autre face. » Étienne écoutait et regardait la virile figure de son père illuminée de soleil. Encore qu'il partageât peu les goûts positifs de M. Mauga, il ne pouvait s'empêcher d'admirer la vigueur d'esprit, la puissante organisation de l'homme qui, parti de très bas, était arrivé à une grande position de fortune à force de travail et de volonté. En ce moment, par cette radieuse matinée d'été, en face de cette luxuriante nature, il était fier de son père. Il avait oublié les déboires de la précédente soirée et il était devenu, à son tour, expansif. Il cherchait à donner à M. Mauga un témoignage de son admiration pour le nouveau domaine, et, voyant à l'extrémité d'un pré une masure entourée d'un bouquet d'arbres et se mirant pittoresquement dans l'eau sombre de la Charente, « Quel coin charmant » s'écria-t-il. « Je suis enchanté de ton acquisition, père, et je viendrai peindre ici. » Le banquier secoua ses épaules carrées. « Tu es encore enfant pour ton âge, » répliqua-t-il, « et voilà bien de l'enthousiasme pour un bout de pré et une masure en ruine. La seule chose qui te charme dans la phénicardière, c'est la possibilité d'y barbouiller à ton aise. Bah, tu n'es pas pratique. » « Non, je suis peintre, et je vois ta propriété avec l'œil d'un artiste. » « Artiste, » répéta M. Mauga avec une grimace. « Tu n'as donc pas renoncé à cette idée-là ? Enfin, amuse-toi. Je suis assez riche pour te faire crédit de quelques années de plaisir. Après, tu reviendras de toi-même aux choses sérieuses. Mais, mon cher père, à Paris, il y a quantité de gens qui regardent la peinture comme une profession sérieuse.
À Paris, c'est possible, riposta sèchement le banquier.
Mais ici, aux yeux des gens sensés, et surtout aux miens, c'est le dernier des métiers avec celui de saltimbanque.
Cette sortie avait jeté un seau d'eau froide sur l'humeur expansive d'Étienne, et ils remontèrent silencieusement le coteau où le soleil commençait à darder. Ils étaient arrivés près de l'une des borderies où deux paysans en bras de chemise étaient occupés à décharger des gerbes et à confectionner une meule. La métive était commencée et l'on rentrait déjà les seigles. Le plus jeune des deux hommes, monté sur le chariot, jetait les javelles aux vieux qui les disposaient en cercle sur le terri de l'air.
« Tiens, » observa le banquier, « voici le père Jacquet qui fait sa meule. Il faut que j'aille lui demander des nouvelles de sa femme qui est malade. »
Monsieur Mauga aimait à se donner des airs de maître affable et peu fier, et il n'était pas fâché de faire étalage de sa popularité devant son fils. Il s'approcha de la charrette et, s'adressant au vieux d'un ton bonhomme,
« Bonjour, père Jacquet, » dit-il. « Comment va la femme de chez vous aujourd'hui ?»
À la grande surprise d'Étienne, les deux paysans relevèrent à peine la tête pour saluer le maître, et ils n'interrompirent point leur besogne.
« Anne va ni mieux, ni plus mal, » répondit laconiquement le vieux, en continuant à placer méthodiquement ses gerbes.
Un peu déconcerté par cet accueil, M. Mauga s'était remis à marcher.
« Espérons qu'elle s'en tirera bientôt, la bonne femme, » murmura-t-il en regagnant la porte de la cour. « Je vous enverrai mon médecin, père Jacquet. »
Les deux paysans se regardèrent d'abord timidement, puis, s'enhardissant à mesure que le banquier s'éloignait,
ils se redressèrent et, tout à coup, le vieillard s'écria.
« Vous êtes bien honnête, monsieur Moga. Mieux vaudrait être moins poli en parole et plus juste dans vos agissements. »
Monsieur Moga avait paru d'abord ne pas entendre. Mais Étienne s'étant arrêté et ayant regardé son père d'un air étonné,
« Qu'est-ce que vous dites ?» demanda le banquier en se retournant.
« Je ne vous comprends pas. »«
Je me comprends, moi, »
reprit le père Jacquet en essuyant avec sa manche son front tout suant.
« Et vous me comprendriez si vous vouliez, notre maître. Vous n'êtes point sans savoir que l'huissier est venu saisir chez nous hier, et vous savez bien aussi qui l'a envoyé.
Vous vous trompez, mon pauvre homme, » répondit brièvement M. Moga. « Je n'y suis pour rien. »
« Je vois clair, » poursuivit le paysan en s'échauffant peu à peu. « Vous voudriez me mettre hors de ma borderie et vous me faites faire des misères par ce chétiga de berloquin qui est censé me poursuivre. Mais personne dans le pays n'ignore que berloquin est votre âme damnée, monsieur Moga.
Vous êtes un maladroit et un insolent !» s'exclama le banquier que la colère commençait à empourprer.
« Oh, vous avez beau rouler des yeux, » continua le métayer en redressant sa vieille poitrine courbée,
« vous ne m'empêcherez point de voir dans votre jeu, maître Moga.
Vous passez la main sur le dos des gens, et c'est votre genre berloquin qui les écorche. Eh bon Dieu, ceux que vous avez mis sur la paille se comptent par centaines dans le pays. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. » « Je dis que c'est un vilain métier, et voilà tout !»
M. Moga était brusquement sorti de la cour et avait hâté le pas. Mais Étienne n'avait pas perdu une des paroles du père Jacquet.
« Qu'est-ce que cela signifie ? » demanda-t-il d'une voix légèrement altérée.
« Est-ce que vraiment ce berloquin ?
Vas-tu me faire subir un interrogatoire, toi, maintenant ?» répliqua M. Moga avec humeur. « Si tu écoutes les geigneries de ces gens-là, tu n'es pas au bout, race de plaignards et de mendiants. Voilà comme ils sont tous, mais je saurai leur clore le bec. »
Il fit voler un caillou du bout de sa canne et redevint silencieux. Le jeune homme était pâle. Il avait la gorge sèche et les lèvres froides. Tandis qu'il regagnait Saint-Clémentin, il sentait au-dedans de lui un ébranlement douloureux, comme si l'imposante figure de son père avait été soudain arrachée du piédestal où, mentalement, Étienne l'avait placée, et où tout à l'heure encore, il la contemplait avec tant d'orgueil.